Encore 20 secondes. Encore 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, partez.
Tous au poste.
Tous les postes de radio.
Sur Divergence FM.
Alors là, oui.
Tous au poste. Midi 13h.
17h, 18h.
Agenda. Nouveautés discographiques.
Interviews et informations internationales.
Tous au poste, tous au poste, tous au poste.
Je continue.
Je souffle du nez en même temps.
De glace entre chaque mot.
Moi, je peux te mettre au rushing.
Nous parlons tous de la logosphère. Vous êtes ici. Si vous voulez bien prendre la parole tout à l'heure. Avec moi, c'est le citoyen de la logosphère.
C'est le mot que je cherchais.
La radio.
Autrement.
Encore plus intense, encore plus incisive.
Tous au poste.
La radio.
Vraiment. Pour tout le monde, comme la vie.
Tous au poste sur Divergence FM.
Tous au poste, c'est bien évidemment sur Divergence FM. Aujourd'hui, c'est Tania Beaumont, Emmanuel Plaza au micro et Amélia en régie. De quoi parlerons-nous aujourd'hui, messieurs, dames? Eh bien, de danse, figurez-vous, puisque vous le savez sans doute, le festival Montpellier Danse débute à la fin de la semaine. Et c'est son directeur, Jean-Paul Montanari, qui viendra nous présenter cette édition particulière, puisque c'est la 30e. Étienne Schwartz lui succédera pour évoquer une autre manifestation autour de la danse. En marge du festival Montpellier Danse, c'est Mouvement sur la Ville, qui donnera à voir le travail de 5 compagnies montpelliéraines. Voilà le programme de cette édition. On écoutera également un extrait de la nouveauté de la semaine. Il s'agit d'un groupe belge. Ils ont bien du malheur, les Belges, en ce moment, mais ils font de la bonne musique. C'est Absent Minded qu'on écoutera juste après les bons plans que nous présente Tania aujourd'hui.
Merci beaucoup, Manuel. Des bons plans pour ce lundi 14 juin. Premièrement, commençons en musique. Le Temps des cerises, c'est un répertoire de chansons françaises populaires qui est interprété par des chœurs d'enfants des écoles de Montpellier. Deux représentations, une en après-midi, 14h30, et une autre en soirée à 18h30. C'est à l'Opéra Comédie, à la place de la Comédie. Pour de la musique gitane, il y a un apéro musical avec les groupes Los Niños de la Noche, El Rey et Camargue. Il y a le duo du village et Sim Sim qui seront de la partie. C'est à compter de 18h à la page au centre gitan qui est situé au 6 rue Dom Vessette. Le collectif Safeness vous présente du rap, du jazz et du soul. Il y aura entre autres Saphir, Amy White, Reed et Amazing. Tout ça à 20h30, c'est au Baloir, au 21 boulevard Louis Blanc et l'entrée est de 3€. Plus tard dans la soirée, toujours au Baloir, on vous présente Donnant Donnant, qui est une pièce de Enzo Corman, qui a été écrite pour Amnesty International en 1998, mais on vous la présente bel et bien aujourd'hui, en 2010. L'entrée est à 5€, il y a aussi possibilité de faire un spectacle et repas pour 16€. Une conférence cette fois-ci qui porte sur la santé, une rencontre sur le thème « Comment s'alimenter pour préserver sa santé » s'est organisée par l'Académie de médecine avec Michel Guérard qui est un chef de cuisine, des professeurs de médecine, il y aura Maurice Tubiana, François-Bernard Michel, Claude Jaffiol aussi. C'est de 17h à 20h30 à la salle Rabelais et l'entrée est libre. Et en terminant, une suggestion cinéma, un film qui nous porte sur la Palestine, Hachin, c'est les Chroniques de Gaza, un film de Nicolas Vadimov. Ce sera suivi d'un débat. D'ailleurs, ça commence à 19h50 au cinéma Diagonale Capitole. L'entrée est de 7€. Alors j'espère que vous aurez trouvé quelque chose qui vous plaira dans ces bons plans.
Merci Tania. Tania, on te retrouve tout à l'heure à 13h pour la Québécoise Express comme chaque jour. Désolé si vous écoutez la rediffusion de ce Tous au poste, mais ça vaut aussi pour demain. La nouveauté de la semaine, c'est donc, comme je vous l'annonçais, un groupe belge, Absent Minded, qui sort son premier album éponyme ces temps-ci. On va écouter le deuxième titre de cet album, ça s'appelle Envoie, on envoie.
Gulping a bit, I never get used to this. They lived here long enough. Enough, I sent them out of the house. I don't wanna wait until their toes are
L'interview.
C'est avec joie que l'on accueille aujourd'hui un voisin, un illustre voisin, avec une joie d'autant plus grande que ses visites sont quand même pas très fréquentes dans nos studios. Habituellement, c'est plutôt nous qui nous déplaçons, c'est vrai qu'on n'est pas très loin. La joie est grande également parce que c'est une occasion assez particulière et puis on imagine son agenda fort rempli. À quelques jours du lancement de cette 30e édition de Montpellier Danse, Jean-Paul Montanari, bonjour.
Bonjour.
Alors une édition, au vu de la programmation, qui tient ses promesses pyrotechniques, j'ai envie de dire,
oui,
forme de
feu d'artifice, bien sûr.
On va citer quelques noms quand même qui seront présents, Cunningham, Forsyth, Béjart, De Kersmaeker, Atou, Hogg, Monnier et bien sûr Bagué. Un 30e anniversaire célébré avec pas mal de fastes, avec également l'inauguration de cette fameuse Agora dont on reparlera, et puis l'apparition d'un ouvrage somme, Montpellier Danse au pluriel, sous votre direction, publié chez Actes Sud. Alors une première question peut-être un peu triviale et un peu familière, Jean-Paul Montanari alors heureux ?
Plutôt, très occupé, mais plutôt heureux, parce que ça vient comme ça couronner presque, couronner quelque chose, couronner beaucoup de travail, couronner le travail d'une équipe également. Mais bien sûr que le 30e ne nous a pas tout à fait pris par surprise. C'est préparé, on prépare ça depuis 2 ou 3 ans. Et le fait qu'effectivement tout converge vers ce 18 juin, mon Dieu, vers ce 18 juin où à la fois on ouvre cette 30e édition avec les noms prestigieux que vous avez cité, et en même temps on inaugure définitivement ce bâtiment qui enfin est terminé, ce bâtiment que Bagué avait voulu il y a 20 ans et que Fresh a réalisé d'une certaine manière, même s'il m'en confie aujourd'hui le fonctionnement. Et puis une chose à laquelle moi je tenais beaucoup, 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 c'est le livre que vous tenez entre les mains, mmh. et qui est effectivement ce livre de 300 pages sorti chez Actes Sud, qui s'appelle Montpellier Danse, 30 ans de création, que je prépare depuis longtemps avec une partie de mon équipe, et où on réunit à la fois une iconographie à la fois artistique et montpelliéraine, parce qu'il y a des photos prises dans les rues, etc. Et en même temps où on a voulu écrire des choses importantes qui marquent quand même ce 30e anniversaire et ces 30 ans de danse, à Montpellier sûrement, mais aussi en Europe, et peut-être même dans le monde. Mmh.
C'est indéniable. Alors, donc un livre que vous dédicacerez d'ailleurs, je crois que ce sera pour l'ouverture du festival.
Oui, ça s'ouvre comme ça, d'une certaine manière. C'est 17h30, si ma mémoire est bonne, chez Sorams à Odysseum, où le festival ouvre comme ça le 18 juin. Oui.
Alors 30 ans où vous avez su faire naître et prospérer un désir de danse à Montpellier. Pour vous, la danse est souvent question de désir, vous y revenez très fréquemment. C'est quoi finalement l'alchimie de ce festival ?
Ah, si je savais, je vous le dirais. Je ne sais pas. C'est les passions, les coups de cœur, les amours que j'ai pu avoir pour un certain nombre d'artistes, ou que j'ai toujours pour un certain nombre d'artistes, et pour leur travail, mais surtout pour leur travail d'ailleurs. Et puis après, faire partager à une population entière ses passions, c'est-à-dire de trouver les bonnes pièces de ces artistes, de trouver les bons lieux pour présenter ces bonnes pièces, et trouver souvent, aujourd'hui je le dis de plus en plus souvent, au bout de 30 ans d'expérience, les bons publics qui vont avec. Et surtout, avoir de la patience. On parle de 30 ans, donc il faut du temps pour construire des publics. Mmh. Les publics ne se construisent pas en 3 semaines, ni même en 3 ans. Il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps. Il faut revenir sur les œuvres, il faut les présenter, il faut les représenter. Souvent, les artistes, si je les trouve importants, c'est que souvent, ils sont un peu difficiles, c'est-à-dire qu'ils disent quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que, dont on n'a pas les codes, qu'on ne comprend pas nécessairement facilement. Et puis si je ne me suis pas trompé, je crois que j'ai souvent pas trompé, si j'ose dire, je me suis trompé quelques fois, mais aussi il y a beaucoup d'endroits où je ne me suis pas trompé, insister, c'est-à-dire même si on ne comprend pas tout de suite, allons-y, on recommence, jusqu'au moment où effectivement ça se met à marcher. Quelquefois, et c'est là où c'est les tristesses. Quelquefois, ça ne marche pas, contrairement à ce qu'on croit. Quelquefois, certains artistes ne trouvent pas leur public. Et dans ce cas-là, au bout de nombreux essais, quand ils sont finalement infructueux, il faut arrêter pour passer à quelqu'un d'autre. Mais enfin, la plupart du temps, ces artistes que je choisis finissent par trouver effectivement leur public.
On vous sait très attaché à cette forme d'équation qui serait de réunir dans le bon lieu le bon chorégraphe et le bon public. Ça tient du casse-tête, non ?
Comment répondre à cette question ? Non, ça veut dire qu'il faut chercher des lieux, il faut chercher... Alors bon, on travaille avec un artiste, Kader Atou. qui est à l'origine un danseur de hip-hop, qui l'est toujours, chorégraphe de hip-hop, qui maintenant prend, comme son copain Mourad Merzouki, la direction d'un centre chorégraphique national, ce qui est un moment historique dans la danse française et dans la danse hip-hop d'une certaine manière, y compris sur l'ensemble de la planète, très important. Et il me propose une œuvre, une nouvelle pièce pour Montpellier sur la 3e symphonie de Gorecki. Je ne sais pas si vous avez entendu la 3e symphonie de Gorecki. On ne voit pas très bien comment on peut faire du hip-hop là-dessus. C'est pour ça que pour moi, c'est la pièce la plus attendue du festival, du prochain festival. Et puis, la chose la plus difficile à faire, jusque-là, je dis d'accord. Je dis à tout, à un public ici à Montpellier, parce qu'il s'est présenté à plusieurs reprises, donc il risque d'être surpris ce public, mais enfin il est là. La musique, l'œuvre par elle-même étonnante, mais à tout me demande un lieu, et ce lieu je ne l'ai pas, je ne l'avais pas, il me demande un lieu désaffecté. Montpellier n'est pas une ville industrielle du 19e, donc pour trouver, il n'y a pas de friche, on n'est pas au bord de, on n'est pas, c'est pas un port, on n'est pas à Sète, on n'est pas à Marseille, et on n'est même pas à Lyon où il y a des industries et des usines qui sont devenues désaffectées. Mais heureusement qu'à la mairie on me trouve l'ancien atelier professionnel du lycée, l'ancien lycée Mendès France, sur Clémenceau, là-bas. Et du coup, ça convient. Donc voilà, nous voilà donc à installer un théâtre, enfin un lieu, c'est pas tout à fait un théâtre, c'est en bifrontal, vous savez, donc les deux gradins face à face, dans cette espèce d'ancien atelier désaffecté. Et c'est là qu'on va jouer vraiment le jeu avec Kader Atou. Donc voilà, on aura, je crois, réuni toutes les choses pour que ça marche. Kader joue 4 ou 5 fois, c'est complet, très bien, donc on est content. Et puis on attend, assis avec les autres, moi le premier, parce que j'ai horreur de regarder les spectacles en répétition, et surtout pas en général, où habituellement les spectacles qui sont réussis en général ne sont pas réussis à la générale, ne sont pas réussis à la première, c'est une tradition du spectacle, du milieu du spectacle. Donc je ne vais qu'aux premières avec le public. Je suis assis au milieu de la salle avec le public et je vois cette pièce dont je parle et sur laquelle j'ai travaillé depuis des mois et des mois et des mois. Et ben je la vois en même temps que tout le monde et c'est ça qui me fait cet intense plaisir. Et je vois et je comprends en même temps que le public si c'est réussi ou pas réussi tout de suite.
Alors, je n'avais pas prévu d'aborder tout de suite ce sujet-là, mais votre réponse m'y fait penser. Vous dites que la requête de Kader Atou était de travailler dans une friche industrielle ou un bâtiment désaffecté. Il se trouve que l'avenir de Montpellier Danse passe par une sorte de régionalisation du festival.
Je le pense.
Est-ce que ce genre de sollicitation pourrait, à l'avenir, trouver une réponse dans d'autres villes que Montpellier?
Mais pourquoi pas, oui. Bon, même si les choses ne se reproduisent pas tout à fait de la même manière, regardez, parce que dans la régionalisation que nous menons, et justement autour du nom de Kader Atou, c'est à Sète qu'on va retrouver Kader Atou à la rentrée. Or Sète, il va jouer dans un lieu normal, dans un théâtre normal, et sa pièce, elle va être conçue après dans des théâtres tout à fait habituels à l'italienne. Mais on n'est qu'au début de l'histoire de la régionalisation. Hein. Très sincèrement, c'est une suite logique, historique de la décentralisation que nous avons tous appelée de nos voeux, nous qui vivons en région depuis toujours. Moi, je n'ai jamais habité Paris de ma vie. Hein. J'ai une partie de ma vie habité Lyon, l'autre partie à Montpellier. Donc, j'ai toujours habité dans des villes de province. Donc, j'ai toujours appelé un plus de décentralisation, un plus de régionalisation. Et que ça, c'est la régionalisation de Montpellier Danse, c'est une suite logique au bout de 30 ans. Et parce que Georges Frêche est à la fois le patron de Montpellier Danse et aussi le patron de la région aujourd'hui, il m'a demandé de réfléchir à cette... Et c'est bien normal que, finalement, tout le monde puisse profiter de cette manne, pas seulement financière, mais aussi de connaissances du milieu, de pratiques des publics et de la mise en place de projets où Montpellier Danse peut à chaque fois être moteur par rapport à des projets. Hier soir, par exemple, hein, s'ouvrait le festival d'Uzès Danse, avec Bouchra Wisgen, qui a été la chorégraphe marocaine, qui a été la révélation du dernier festival, celui de l'année dernière.
Avec Madame Plaza.
Bien sûr, avec Madame Plaza, qui est ce merveilleux spectacle. Et Liliane Schultz voulait absolument revoir et voulait inviter Bouchra à Uzès. Montpellier Danse a été tout à fait acteur dans cette opération, puisque c'est Montpellier Danse, finalement, qui a financé le retour de Bouchra Wisgen dans la région, et particulièrement à Uzès. Donc ça peut aussi servir à ça.
Pour revenir sur la question du désir, ce désir que vous entretenez depuis 30 ans maintenant dans le public, est-ce que votre désir à vous de danse est le même aujourd'hui qu'il y a 30 ans ?
Non. Mais la danse non plus n'est pas la même il y a 30 ans qu'aujourd'hui, ou aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Tout change, heureusement. Donc les choses changent. La danse, c'est une longue histoire. Je l'évoque assez volontiers dans le livre, mais c'est quand même une longue histoire. Tout ça est une longue histoire. Il y avait, au moment où la danse est née, ou en tous les cas, les 15 premières années, il y avait un rapport au corps, un rapport au désir, un rapport au spectacle, un rapport, finalement, d'une certaine manière, à la joie ou à la jubilation, qui malheureusement a sensiblement disparu, pour des tas de raisons. Hein. On peut même le dater, si vous voulez, on peut le dater de la mort de Dominique Bagoué en 92. Voilà, ça c'est un signe, d'une certaine manière. Bagoué meurt en décembre 92, il meurt du sida à ce moment-là. Et finalement, rien n'aura exactement été pareil, mais pas seulement dans la danse à Montpellier, dans la danse partout. Et la danse ne s'est plus tout à fait préoccupée de la même chose, ni de la même sorte de désir. Bon, alors quelque chose d'autre semble revenir aujourd'hui. Mais aujourd'hui, la danse, comme tout le reste est inclus et vit une espèce de crise à la fois économique, morale, de déplacement des choses qui se déplacent peu à peu de l'Europe vers ailleurs. Donc on est d'une certaine manière dessaisi d'un certain nombre de puissances que nous avions, et particulièrement pour la France, d'une puissance culturelle qui est longtemps, la France a été considérée comme la plus grande puissance culturelle du monde. C'est plus tout à fait exactement le cas. Donc il y a un peu une espèce de dérilection, de désarroi à la fois de la plupart des, que ce soit les acteurs politiques, que ce soit les acteurs territoriaux ou les artistes. Bon, ceci dit, bon, alors ça continue, on y va, mais 30 ans plus tard, ce n'est pas tout à fait la même chose, d'autant plus qu'il y a 30 ans, nous savions avec Bagoué ce qu'il fallait construire. Donc on avait un plan qui, d'une certaine manière, sans méchanceté et avec un peu de, comme ça, d'humour, finalement s'achève. Là, maintenant, s'achève là, maintenant, au bout de 30 ans, parce que Bagoué, c'est Bagoué qui, en 90, a voulu que, et a convaincu Georges Frêche d'installer son centre chorégraphique, non pas sur la route des plages où Frêche voulait le mettre, puisque c'était, il voulait faire de ce campus de Gramont une espèce de campus culturel avec le Zénith pour la musique, avec le théâtre, avec le centre dramatique. Et il aurait bien vu, quelque part par là, un centre chorégraphique sorti ex nihilo, là, à cet endroit-là. Or, Bagoué a beaucoup insisté pour que la danse contemporaine reste dans le cœur de ville, disant c'est un art trop difficile, il ne faut pas trop l'éloigner, etc. Il a eu gain de cause. Frêche, qui venait de racheter la caserne Grossetti, commence les travaux. Malheureusement, Bagoué meurt entre-temps, mais couvent des Ursulines. Mathilde Monnier reprend le flambeau entre-temps, et puis bon, finalement, donc, commence à installer sur un tiers du bâtiment le centre chorégraphique. Montpellier Danse viendra la rejoindre quelques années plus tard, et voilà donc que les travaux qui ont commencé il y a 2 ans se terminent. Donc, d'une certaine manière, quand on est arrivé il y a 30 ans avec Bagoué, on voulait faire ça. D'une certaine manière, notre cahier des charges est quasiment plein. Donc,
vous le saviez, ça, au départ ?
Non, mais on l'a senti au fur et à mesure qu'on avançait. On savait qu'il y avait un potentiel formidable en termes de festival, en termes de création, en termes de public. Ça, on l'a très vite compris. Dès la troisième année, on a compris qu'il y avait un vrai public dans cette ville possible. Après, vous savez, j'ai commencé à broder sur les espèces de fiançailles historiques entre Montpellier et le corps depuis la fac de médecine, qui quand même jusqu'à nouvel ordre s'intéresse à la question du corps, bien sûr. Et puis regardez, et puis après j'ai, alors bien sûr, Montpellier Danse, toutes les compagnies de danse s'installaient à Montpellier, ce qui est statistiquement sans doute une des villes européennes à plus forte intensité de compagnies de danse, bien sûr. Pour 400 000 habitants, on a plus de 20 compagnies ici sur Montpellier, donc imaginez, ça voudrait dire qu'il y aurait 200 compagnies de danse dans une ville de 4 millions d'habitants, ce qui n'est pas du tout le cas. Bien. Et puis après vous pouvez aller plus loin. Tout le monde dit que Montpellier, c'est la Gay Pride la plus importante après Paris. Donc, il y a sans doute des histoires de corps et de désir là-dedans. Et puis le FIS, et puis le sport. Alors, Montpellier, aujourd'hui, est champion en handball, enfin, est très bon au football. Enfin, donc, ça veut dire que cette question du corps dans cette ville, on peut pas dire la même chose de Nîmes. À Nîmes, on dit autre chose. À Perpignan, on dit autre chose. Mais ici, à Montpellier, il y a une espèce d'acquaintance, de fiançailles entre la question du corps et cette ville et étonnante. Vraiment étonnante. Donc, il y a un potentiel, il y a toujours des choses à faire autour de la question du corps. Là, moi, je me suis spécialisé dans la danse. J'ai essayé de faire de Montpellier et de son agglo une capitale de la danse en Europe. Je crois qu'on y est arrivé.
Alors, il est une autre question que vous qualifiez dans cet ouvrage Montpellier Danse de démagogique en répondant aux questions de Lisotte et Agnès Izrine. Il s'agit de la question de la popularité ou non-popularité de la danse. Oui. Vous dites que finalement, la danse n'est pas un art populaire, mais finalement, ni plus ni moins que n'importe quelle autre forme d'expression artistique.
Bien
ce
sûr.
Ce qui pourrait éventuellement faire débat, mais on n'a pas le temps de débattre ici. Simplement, est-ce que ce constat-là, c'est le constat d'un échec ou est-ce que finalement les choses sont très bien comme ça ?
C'est très bien comme ça. C'est à la fois jamais il y a eu autant de monde dans les salles. On se souvient de combien il y avait de gens et combien il y avait de salles il y a 30 ans dans cette ville, dans cet agglo, pour faire de la musique, ou pour faire de la danse, ou pour faire de l'opéra, ou pour faire du théâtre, etc. Aujourd'hui, les paris sont gagnés. C'est largement ouvert. Il y a beaucoup de monde partout. Il y a 300 000 spectateurs par an au Zénith. Il y a 70 000 personnes qui viennent voir de la danse contemporaine, il y a 100 000 personnes au festival de musique, enfin, etc., etc. Donc, et ça, c'est de la culture. La culture étant la mise en circulation des œuvres d'art. La définition de l'art, c'est une manière de faire exploser. L'art fait exploser la société. Il s'adresse qu'à des individus. Et les artistes sont toujours un peu devant. Ils disent toujours des choses qu'on ne comprend pas. C'est toujours un peu mystérieux. C'est toujours des sortes de prophètes, des drôles de gens, les artistes. Bon. Donc c'est pour ça que c'est jamais un artiste... Alors, après, on peut discuter. Quelque part, dans la revue Danser, Frédéric Martel, qui vient d'écrire un gros bouquin sur mainstream, la culture de masse, d'une certaine manière, explique pourquoi la danse ne sera jamais mainstream. C'est-à-dire que c'est un art qui est un peu particulier et qui ne sera jamais un art de masse. Mais en général, d'ailleurs, en général, l'art ne peut pas être populaire. La culture peut être populaire, mais pas l'art. Et si, surtout, si on pense que populaire, ça veut dire facile ou ça veut dire des choses comme ça. Il faudra toujours faire un effort pour accéder à l'univers d'un artiste. Mmh. Mais que ce soit Gustave Flaubert en littérature, Merce Cunningham ou même Dominique Bagué, il faudra toujours un effort qui sera supérieur à celui qui est demandé par la télévision, ça c'est sûr, parce que c'est pas le même jeu, quoi.
Et alors, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là dans le fait d'exiger des efforts de la part du public? Vous souhaitez que le public se mette en quelque sorte à la hauteur des créateurs et de leurs œuvres, et puis de dire par ailleurs, comme on vous l'a entendu dire sur une radio nationale il y a la semaine dernière, me semble-t-il, ce qui est formidable avec la danse contemporaine, c'est qu'on n'y comprend rien et que c'est très bien comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe?
Non, c'est de proposer au plus grand nombre de rien y comprendre. C'est pas si mal. Rien y comprendre, ça veut dire de se questionner sur qu'est-ce qu'on est en train de regarder. Est-ce que ça nous touche? Est-ce que ça nous touche pas? Pourquoi le fait de pas comprendre nous intéresse? Parce que ça, c'est moi, je suis venu à la danse pour ça, entre autres, mais parce que c'est énigmatique, la danse contemporaine. On parle que de ça, cette drôle de chose qu'on appelle la danse contemporaine, parce qu'on ne sait pas comment la nommer. Mais chaque créateur de danse contemporaine a son propre langage, alors que dans la danse classique, tous les chorégraphes et tous les danseurs classiques ont tous la même technique. C'est la question du code, bien sûr. Hein. Alors qu'en danse contemporaine, chaque créateur a son vocabulaire. Donc chacun parle sa langue. Et donc il faut accéder à la langue de chacun à chaque fois. Moi, ce que j'aime, c'est ça. C'est décrypter, et être à l'écoute de l'univers d'un artiste, à condition qu'il soit un artiste important, pour essayer de comprendre où il veut m'emmener, qu'est-ce qu'il veut me dire. Et c'est ça l'essence de la danse contemporaine. Si on comprenait tout de la danse contemporaine, elle n'aurait que vraiment peu d'intérêt.
Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que la danse génère ce que j'appellerais moi une forme de nostalgie instantanée liée à son côté éphémère, liée au fait qu'on ne peut pas la commercialiser au même titre qu'un autre produit commercial comme les disques ou les livres, et que du coup ça crée un rapport particulier au public?
Je vous suivrai assez volontiers parce que effectivement la danse s'adresse à chaque individu, curieusement, et chaque individu réagit très très différemment par rapport à un autre, etc. Et ce que vous dites sur la nostalgie, elle est liée sans doute à la question de l'enfance, mais il va être 13h et pour peut-être que les auditeurs de Divergence FM, c'est un peu lourd.
Oui.
D'accord, merci.
Passons à un autre aspect de la danse contemporaine, c'est les accointances de plus en plus notables qu'elle entretient avec l'art contemporain. On va le voir cette année encore lors du festival avec certains chorégraphes qui proposent non pas des spectacles mais des installations. Comment interprétez-vous cette tendance ?
Eh ben, je fais comme vous, je l'observe et je n'arrive pas toujours à l'interpréter. Sinon qu'on a l'impression que comme ça, une nouvelle génération de créateurs, la dernière arrivée, fait moins confiance au corps. lui accorde moins d'importance et finalement s'intéresse davantage peut-être à l'espace ou en tous les cas tire des arts plastiques et de ce qu'on appelle en art plastique les installations plus d'inspiration que la réalité et le questionnement du corps. Et donc des artistes comme Forsythe passent de l'un à l'autre assez régulièrement, c'est-à-dire composent des pièces chorégraphiques avec des danseurs et puis la pièce d'après c'est plutôt une installation, c'est-à-dire des objets dans l'espace qui sont utilisables, qui sont utilisés par les spectateurs, mais où le danseur n'est plus là, même si, la plupart du temps, la question du corps est première dans cette question de l'installation. Ce n'est pas une installation pour une installation, c'est une installation qui questionne encore une fois le corps, mais sous un autre angle, par son absence peut-être justement, ou par la présence de corps qui ne sont plus des corps de professionnels. C'est particulièrement vrai pour ce White Castle, ce château blanc que Forsythe m'a proposé d'installer sur la scène du Corum, ce qui est quand même assez fort, pour le moins qu'on puisse dire, et qui est à disposition des visiteurs, puisque ça se visite comme une exposition, donc on vient et puis on rentre dans la salle du Corum et puis on pénètre dans ce château gonflable qui est sur la scène. On l'utilise comme on le souhaite, c'est-à-dire qu'on devient soi-même des danseurs puisqu'on peut sauter dedans, on peut bouger, on peut sauter. Les autres vous regardent, donc les spectateurs qui arrivent vous regardent, donc ils restent spectateurs alors que les spectateurs qui étaient là juste avant se transforment en acteurs, en danseurs d'une certaine manière. Puis après, ceux qui étaient dans le château sortent et puis ceux qui les regardaient se mettent à leur place. Il y a tout un jeu sur cette question de qui est danseur, qui est spectateur, qui est une des questions récurrentes de cette nouvelle danse, de la nouvelle génération qui pose les questions et qui s'est posé des questions sur tous les concepts, toutes les approches de la danse. C'est quoi une œuvre? C'est quoi un chorégraphe? C'est quoi un interprète? C'est quoi un spectacle? C'est quoi un théâtre? C'est-à-dire pourquoi il y a un théâtre? Pourquoi il y a une scène d'un côté et puis des spectateurs assis sur des sièges de l'autre et remettre tout en cause? Tout en cause, absolument tout, la notion d'œuvre, la notion de danseur, la notion d'interprète, la notion d'espace, et pourquoi pas ma foi.
On parle beaucoup de questions, il en est une qui vous a beaucoup, on va dire, irrité. C'était à l'issue de la dernière conférence de presse bilan de l'édition précédente. Elle a été posée par Gérard Mayen, qui cherchait à vous faire réagir aux propos tenus par Georges Frêche sur notre antenne quelques jours plus tôt, relatif à, ce qu'on en a compris, une sorte de désintégration de Montpellier Danse après la 30e édition. Et pour faire éclore un festival complètement nouveau. Alors je me garderai bien de vouloir raviver votre non, colère là-dessus, mais c'est vrai que ça avait suscité quand même une légitime inquiétude et quelque chose d'assez anxiogène chez les gens qui aiment la danse et qui aiment Montpellier
Danse. Pourquoi ?
Parce qu'on s'est dit, tiens, mais que va-t-il se passer ?
Il faut me faire confiance, ça fait 30 ans que vous me faites confiance, il ne vous reste plus qu'à continuer à le faire. Au contraire, rien ne signale que quoi que ce soit s'arrête. Ça ne fait que croître et embellir. Nous avons une somptueuse 30e édition à peu près unique aujourd'hui en termes de programmation en France et en Europe. Un nouveau bâtiment qui va ouvrir avec ses nouveaux studios, ses nouvelles salles, son nouveau théâtre de plein air restauré qui, en association avec ce qui se passe à côté au centre chorégraphique, fait un ensemble extraordinaire qu'il va falloir animer et dont il va falloir s'occuper beaucoup. Maintenant, que le festival soit en questionnement, je trouve qu'au bout de 30 ans, c'est alors du coup assez normal. C'est normal qu'au bout de 30 ans, on se dise, vu le changement de la danse, vu le changement de la situation du spectacle vivant, vu son évolution, comment pourrait-on penser qu'il faut faire le même qu'il y a 20 ans ? Moi, je pense au contraire qu'il faut essayer d'en faire un autre, de réinventer autre chose. Est-ce que je suis le mieux placé ? C'est surtout ça que j'ai répondu à Georges Frêche. Est-ce que je suis, moi, le mieux placé alors que j'ai fait les 30 ans, j'ai fait 30 éditions ? Est-ce que je suis le mieux placé pour trouver les bonnes idées pour entièrement rénover ? C'est peut-être là où j'ai quelques doutes. Mais j'ai quelques idées. J'ai déjà commencé à travailler. Alors, on peut s'associer avec un artiste qui amènerait, par exemple, son propre univers.
Raymond Dogg, par exemple.
Par exemple, Raymond Dogg, qui est quelqu'un, effectivement, un chorégraphe que j'aime passionnément et qui a toujours amené, depuis 1999, où il vient régulièrement au festival, des moments absolument uniques dans ses éditions. Mais aussi, je sais pas, la question du cirque, qui est très prenante aujourd'hui. Et Guy Périlloux travaille à Alès, dans ce pôle cirque, d'une manière absolument exemplaire. Donc pourquoi ne pas s'associer pour, encore une fois, aider quelques artistes du cirque qui seraient à la fois en coproduction, à la fois Montpellier Danse, avec ses grandes scènes, avec ses moyens, avec son public, public, associé avec pole dance. Et puis comme ça, il y a des quantités d'autres idées, en gardant deux paramètres absolument obligatoires, qui sont un, le corps, et deux, la création, qui sont des choses finalement c'est ces deux mots avec lesquels on pourrait finalement résumer l'action qu'on a menée à Montpellier Danse depuis 30 ans. Le corps, la question du corps, et la question de la création, puisque la plupart des œuvres présentées à Montpellier Danse ont toujours été des créations et qu'on s'en aperçoit mal à Montpellier, mais d'année en année, la moitié de la production française est faite à Montpellier quasiment tous les ans. La production importante, j'entends, des pièces importantes. Voilà. Donc, mais tout ça est au travail, à la réflexion. Puis après, ça va être les histoires de moyens. Après, Montpellier Danse a déjà beaucoup de moyens et donc c'est encore dans cette période vraiment très difficile qui s'annonce. On se dit à qui on va encore extorquer des subventions pour encore aller plus loin. Donc il y en a tellement qui en ont tellement peu et ça va être tellement pénible et dur dans les années qui viennent. C'est exactement ce qu'on va nous proposer quand même. Hein. Même si on peut faire confiance à Georges Frêche pour continuer à soutenir la création et particulièrement la création contemporaine et la culture en général. Mais enfin bon, et ses budgets ne sont pas illimités à lui non plus. Hein. Voilà, donc on se dit, ça va changer, quelque chose va changer. Ce 30e anniversaire est une sorte de fermeture d'une parenthèse plutôt enchantée, ce que j'ai appelé les parenthèses enchantées depuis une trentaine d'années, dans une espèce de, quand même, de beaucoup de moyens, beaucoup de choses, beaucoup de public, beaucoup de créateurs, beaucoup de journalistes, beaucoup de professionnels qui viennent de partout. J'espère que ça va durer comme ça, mais il est possible aussi que ça change un peu. Et en tous les cas, il y a nécessité, je pense, de l'intérieur de Montpellier Danse aussi à raviver tout ça, à raviver les couleurs, à faire un peu différemment et à faire nouveau avec des gens nouveaux. J'ai aussi fait appel à quelqu'un comme Fabrice Ramalingom, par exemple, qui est ce jeune chorégraphe montpelliérain en tous les cas, mais pas seulement montpelliérain, il vit un peu partout dans le monde aujourd'hui, entre Montréal et Berlin souvent, ancien de chez Bagué, pour venir aussi avec nous. Donc disons que moi qui ai tout fait tout seul depuis très longtemps au plan artistique, j'ai plutôt tendance à ouvrir aujourd'hui largement du côté de gens avec qui je partage des options artistiques, que ce soit Ramalingom ou Raymond Dogueux, vers le futur.
Alors à propos d'ouverture, et on va en terminer là pour ne pas abuser de votre temps et pour ne pas faire patienter trop longtemps Étienne Schwartz, à propos de l'Agora, on a le sentiment, mais peut-être on se trompe, que c'est davantage le souhait enfin exaucé de Georges Frêche que le vôtre, parce qu'on a l'impression que vous évoquez souvent le passé de ce bâtiment qui fut un couvent, qui fut une prison, et son aspect un peu fermé, justement. On a l'impression que ça tempère votre enthousiasme par rapport à ce lieu.
Non, c'est pas seulement le lieu, c'est que quelque part, je raconte combien la danse est emparée de tous les espaces dans cette ville. Et c'est ça qui était une sorte de liberté. Voilà, c'était ne pas la signer, c'était pas dire à la danse, voilà, ça c'est chez toi, là, ici, pas, et pas ailleurs. Ce qui souvent referme les formats, referme l'imaginaire. Et donc c'était ce que je crains un peu dans cette Agora Cité Internationale de la Danse, c'est qu'on n'en sorte plus, c'est-à-dire qu'on soit si bien à l'intérieur, que ce soit un cocon, où on soit bien entre nous, etc. Alors que ce que j'aimais, moi, certaines fois, c'était emmener Michel Kelemenis sur le quai numéro 2 de la gare SNCF de Montpellier pour y créer une œuvre. Alors je pense que ça va continuer, bien sûr. Hein. Mais, et puis l'Agora, vous l'avez vu commencer, puisqu'on est voisins, c'est une grosse forteresse, comme ça, refermée sur elle-même. Et mon souci essentiel, c'est d'essayer de l'ouvrir, de lui donner de l'air, de faire que ça circule, etc. Ce qui n'est pas non plus si facile à faire, ni si évident que ça. Voilà, donc, mais à part ça, allons-y. Je me retrouve pour la première fois de ma vie. Je n'ai jamais voulu ni de théâtre, ni de scène nationale, ni rien du tout ça. Et je me retrouve avec un gros bâtiment à gérer. Et les deux responsables s'appellent effectivement Dominique Bagué et Georges Frêche. Ils ont eu raison parce qu'historiquement, c'est tous les deux qui ont raison de faire ça. À moi de m'accommoder et à moi de savoir faire ce qu'ils me demandent.
Pour finir complètement, cette fois-ci, il y a une photo assez émouvante que l'on retrouve dans pas mal d'ouvrages, notamment celui-ci, Montpellier Danse, et puis aussi dans le magazine Dansé, et puis on l'a vu également dans la Gazette très récemment, c'est celle d'un Jean-Paul Montanari en 1988, chaussée de chaussons, répéto. Alors on connaît votre amour pour les créateurs, et ça ne fait pas de doute que vous en êtes un d'une certaine manière, mais finalement, est-ce que vous n'avez pas le regret de n'avoir pas passé le pas et de ne pas avoir été ni danseur ni chorégraphe?
Si je peux vous embêter un petit peu plus, on la voit aussi dans Paris Match cette semaine.
D'accord.
Ah, voilà. Et non. En ce qui concerne danseur, chorégraphe, non. Un seul regret, c'est que la danse m'a suffisamment bouffé, pris la tête, les mains, mon cœur, mes pieds et le reste, que je n'ai jamais pu écrire. Alors, j'ai qu'un seul regret, c'est de ne pas pouvoir écrire. C'est la seule chose qui me paraît grandement digne d'estime. La lecture et l'écriture me paraissent les deux vraies hautes fonctions, dignes fonctions de l'être humain.
Jean-Paul Montanari, merci. On rappelle que Divergence se met à l'heure de la danse pendant toute la durée du festival, puisque nous animerons chaque jour de 13h à 13h20 une émission consacrée, un magazine consacré à l'actualité du festival. Merci.
Merci à vous. Merci pour tout. Merci beaucoup.
Quelques petites secondes de musique avec un autre extrait de la nouveauté de la semaine. Et puis, on accueille Étienne Schwartz. Merci.
Just like splitting the money. Seeing it through, we had a common full blown. If you want something done quick, good, honey, you know where I roam. Heaven knows we're on the road. You want it to happen? Let me in. We can win. I want it to happen. It's never much. Talk but touch your smiles to get a curses for parting. My gaze is fixed on you and you know that you got it. Give me just a second, baby, I am ready, willing and able. Let me show it to you, honey, something's hiding under the table. Between two lovers, soft and wet, I know where we're going next. If you want something done quick, good, you can put me to the test. Heaven knows, on a roll.
Voilà, comme promis, on continue à parler de danse dans cette édition de Tous au Poste avec Étienne Schwartz, que je
oui,
salue.
Bonjour.
Étienne Schwartz, directeur de La Chapelle, un lieu dont on a appris très récemment qu'il traversait quelques petites turbulences.
Turbulences, oui. Oh, ça fait quelques temps, mais ça fait quelques temps que ça se prépare. Disons qu'on ne sait pas très bien comment ça va continuer. C'est pas le projet lui-même que je mets en doute, mais effectivement la structuration du lieu et de l'équipe. Hein. Mais bon, ce sera peut-être résolu très bientôt. De toute façon, je pense que les choses doivent évoluer, et puis donc ce sera l'occasion de faire évoluer les choses. Je ne sais pas encore très bien vers quoi, mais je pense que toute évolution est bonne. Et voilà, même si on a l'impression de faire un pas en arrière, peut-être qu'on a besoin de ça.
On suivra en tout cas cette évolution avec beaucoup d'attention. On est ensemble pour les 10 minutes qui nous restent. On va parler de Mouvement sur la ville. Mouvement sur la ville, eh bien, c'est une initiative chorégraphique qui se trouve correspondre au niveau des dates avec Montpellier Danse. Oui. On imagine que ce n'est pas un hasard.
Je présume. Alors, je ne fais pas partie des créateurs de Mouvement sur la ville. C'est trois compagnies, en fait, trois créateurs, trois chorégraphes qui ont créé ça l'année dernière. Je crois qu'il y avait aussi un quatrième ou cinquième, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, il en reste trois cette année. C'est la compagnie Yann Lheureux, la compagnie hors commerce d'Hélène Catala et aussi la compagnie Didier Théron à l'espace Glandier à Montpellier. Alors nous, on s'est joint à eux parce qu'effectivement, la danse contemporaine est quand même... la danse est un domaine artistique qui nous triture quand même depuis bien 10 ans, puisque ça fait 10 ans qu'on accompagne des créateurs, des chorégraphes, hein, la création chorégraphique en général. Et donc c'est tout naturellement en fait qu'on entre dans ce mouvement sur la ville.
Pour en terminer avec Montpellier Danse, on va pas y passer toute la nuit ni la journée, mais comment est-ce qu'on voisine avec un si grand voisin?
Ben, je me pose même pas la question. J'ai toujours dit à Jean-Paul j'ai toujours annoncé que je ne voulais pas faire un festival off. Hein. Ça m'intéressait pas parce qu'il y a beaucoup de chorégraphes qui venaient me voir jusqu'à aujourd'hui, qui viennent me voir, qui me demandent un espace pour montrer le travail pendant le festival Montpellier Danse. Moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas de faire un off du Montpellier Danse. L'année dernière, on a accueilli Montpellier Danse à La Chapelle avec notamment
Mathilde
la création, le travail de Mathilde Monnier. Et ça a été un vrai plaisir, une grande joie et un moment magnifique. Donc moi, je veux pas, je me définis pas de la chapelle en fonction de Montpellier Danse. Je ne définis pas le travail qu'on fait en fonction de Montpellier Danse. Je pense que la chapelle est un lieu qui peut être complémentaire à d'autres lieux ou d'autres activités artistiques ou culturelles sur Montpellier. Et on travaille, au contraire, dans cette complémentarité.
Alors là, il s'agit de montrer eh bien, le travail de compagnie Montpellier-Rennes qui travaille, qui crée en ville. C'est vrai que parfois, le festival, c'est la dernière fois qu'on en parle, leur offre une vitrine. Mais c'est vrai que là, c'est exclusivement centré sur leur travail à eux.
Nous, à la chapelle, on a choisi ça. Voilà.
Qu'est-ce qui les relie, ces compagnies, selon vous ?
Alors déjà, au niveau de la chapelle, ce qui les relie, c'est que les deux compagnies, les deux chorégraphes sont soutenus par la chapelle. Alors François Rascalou, on accueille en fait cette année François Rascalou et Mitya Fedotenko. François Rascalou est un chorégraphe qu'on soutient et qu'on accompagne depuis plusieurs années déjà. C'est un des artistes associés à la chapelle. C'est très clair, on le suit, on l'aide, on l'accompagne, on est partenaire. Et puis Mitya, en fait, on a coproduit sa dernière création cette année, dont la première a été présentée à Montpellier, à la Chapelle, au printemps. Et donc on est absolument partenaire et de cœur et de tête avec le travail des deux chorégraphes.
Alors donc, il y a la chapelle, mais il y a aussi d'autres lieux de représentation qu'on peut peut-être citer, Étienne, si vous le voulez bien.
Donc il y a la compagnie de Yann Lheureux, il y a l'atelier, qui c'est un lieu de travail plus que de représentation. La salle 3 d'Hélène Catala. Dans le quartier Figuerolles, qui est aussi plus un lieu de travail qu'un lieu de présentation. En fait, la particularité des autres lieux, c'est qu'ils sont plus des lieux de travail que de présentation, alors que nous, chapelle, on cumule présentation et travail. Et puis, il y a aussi la compagnie Théron qui a des locaux qui sont installés juste à côté du théâtre Jean Villard,
Bernard Glandier.
Voilà, l'espace Bernard Glandier. Donc, chaque lieu, en fait, est libre de faire sa programmation. Et je sais que cette année, il y a une particularité, c'est que Hélène Catala va présenter son travail chez Didier Théron et Didier Théron va présenter son travail chez Hélène Catala. Là, mais chaque lieu est en fait indépendant dans la programmation. Et je crois qu'ils vont d'ailleurs venir en parler.
Demain, voilà. En principe, on accueillera quelques-uns des chorégraphes investis dans ce projet, dans la deuxième partie de Tous au poste demain. Rapidement, un petit tour d'horizon des dates en ce qui concerne la chapelle, en tout cas.
Alors, en ce qui concerne la chapelle, on commence en fait avec Déclassé X de François Rascalou, qu'on va présenter le jeudi 24 juin et le vendredi 25 juin. La particularité, c'est que les présentations se font le jeudi à 11h et à 15h. Et le vendredi à 11h du matin. Voilà, ça c'est pour Déclassé X de François Rascalou. Après, il y a Mitya Fedotenko qu'on va présenter à la chapelle aussi le 29 juin à 15h et le 30 juin à 11h et à 15h.
Donc j'imagine qu'on retrouve toutes ces dates dans le programme, dans sa version papier, qu'on peut se procurer
un peu partout.
Un peu partout, j'imagine. et puis probablement aussi sur le site.
Alors sur le site, nous, pour l'instant, le site de la chapelle est un peu en stand-by parce qu'on a un petit problème d'organisation pour le remettre à jour. Donc sur notre site, il n'y a pas les infos de Mouvement sur la Ville, mais je pense que si on va sur les sites des autres partenaires, je pense qu'il devrait y être. Voilà.
Rapidement, parce qu'il nous reste assez peu de temps, quels autres événements sont à noter à la chapelle Gély pour les semaines à venir?
Je crois que
c'est la reprise notamment des guinguettes gitanes d'ici peu de temps.
Alors on a les guinguettes gitanes qui démarrent ce jeudi 17, mais avant ça, mardi, mercredi, on a l'Opéra Junior qui est dans nos murs, parce qu'on se questionne dans cette période de l'année un peu sur la transmission. C'est pour ça qu'on a travaillé avec Anne-Marie Porras, Vendetta Mattea, et puis là c'est l'Opéra Junior. Donc l'Opéra Junior mardi, demain et après-demain, mardi, mercredi. Jeudi soir, c'est la première des guinguettes gitanes avec une présentation aussi de portrait dansé que François Rascalou a fait avec Bourneville. Ça, c'est à 18h30. Et puis, l'apéritif de Ganga Gitane à 19h30. Et puis, vendredi, on a un concert gitan, c'est Soy, avec trois groupes gitans, un de Arles et deux de Montpellier qui viennent à la chapelle. Ça, c'est pour cette semaine-ci. Donc c'est une semaine assez intense. Et puis après, on a un mouvement sur la ville. Et puis parallèlement à ça, on a aussi une exposition qui s'appelle Mémoire Gitane, qui tourne, qui est actuellement à la maison d'Aglo de Castelnau, et qui normalement, dans 10 jours, devrait passer à la maison d'Aglo Lamosson. Voilà.
Très bien. On souhaite en tout cas le meilleur à la chapelle, en espérant que ces turbulences ne sont que passagères. On sait que de toute façon, dans le spectacle vivant aujourd'hui, vous n'êtes pas seul à connaître ce genre de turbulences. On espère que tout cela sera un jour freiné quand même. Oui. Mais bon, c'est difficile à dire vu le contexte économique et social que nous traversons. On n'a hélas pas beaucoup de temps pour en débattre, mais en tout cas, voilà.
Je peux juste faire une remarque, c'est qu'effectivement, la chapelle aussi est en difficulté, comme le spectacle vivant en général. Et en fait, la particularité de la chapelle, c'est que ça fait 10 ans qu'on a passé notre temps, notre énergie à aider le spectacle vivant. C'est-à-dire pas simplement à travailler pour notre pomme ou pour le travail d'un artiste, d'un créateur, mais au contraire de considérer la chapelle comme un outil, comme un accueil, comme un espace au service des autres, c'est-à-dire au service des compagnies, des créateurs et aussi des publics et aussi d'un quartier. Donc effectivement, peut-être qu'on va un peu vers la fin de ça, je sais pas, on verra. En tout cas, vive le spectacle vivant.
Vive le spectacle vivant, ce sera le mot de la fin. Merci Étienne Schwartz.
Et merci
puis
à toi.
À bientôt sur les ondes de Divergence.
Merci beaucoup.
Et c'est fini pour Tous au poste. Je remercie Amélia qui était aujourd'hui à la réalisation technique. À suivre sur le 93.9. Si vous nous écoutez en direct entre midi et 13h, eh bien, c'est Tania Beaumont que vous allez retrouver pour son émission quotidienne, La Québécoise Express. Ce sera suivi, ce sera suivi à 13h30 de l'émission de Vincent Pourageau, EPRA, échange et production radiophonique. Et puis, pour la suite des programmes un peu plus tard dans la soirée, je vous invite à consulter le site de Divergence, www.divergence-fm.org. Bonne journée à notre écoute ou au soleil, à la plage, comme vous l'entendez.